Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons en ce vendredi 18 septembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Alain Monnier. Bonjour Alain.
Bonjour.
Je suis très heureuse de te revoir ici à Page. Cela faisait déjà quelque temps que tu n'étais pas venu nous faire un petit coucou.
Voilà.
Alors nous allons parler tout à l'heure de ton livre « À votre santé, Monsieur Parpeau », publié aux éditions Flammarion, un livre épistolaire. Mais comme à l'accoutumée, la page info, pour vous dire que vendredi 25 septembre à 19h à la librairie Escalire, qui se situe 61 avenue de Toulouse à Escalquins, une rencontre avec Gilles Biassette autour de son livre « L'amour des Loving ». Et c'est un livre paru aux éditions Baker Street. Alors l'entrée est libre et pour tout renseignement, c'est le 05 62 80 68 50. Et puis une deuxième petite information qui concerne directement mon invité. Et oui, demain, samedi 19 septembre, il sera présent à la médiathèque de Lille-sur-Tarn pour présenter, eh bien, à votre santé, Monsieur Parpeau.
Voilà.
Donc vous pourrez le rencontrer en vrai, voilà, après l'avoir entendu ici sur Radio Occitanie.
Page à page, Claire Ambille.
Merci à Guy pour la technique de cette émission. Alors, on avait découvert Barthélemy Parpeau eh bien, dans ses précédentes aventures épistolaires, toujours. Hein, voilà, il adore écrire des lettres, Barthélemy, avec Signé Parpeau. Et puis, il y avait Un amour de Parpeau et enfin Parpeau le bienheureux. Et qui sont d'ailleurs réunis en un seul volume qui est publié dans les éditions J'ai lu, sous le titre « Le petit monde de Barthélemy Parpeau ». Donc, vous pouvez les avoir tous les trois en un seul. Et puis, donc, c'était un monde où, justement, était évoqué tour à tour eh bien, le handicap, la religion ou encore l'amour.
Et le travail aussi. Le
monde et le travail aussi, oui, voilà. Un sujet important également. Et puis, alors, aujourd'hui, c'est « À votre santé, Monsieur Parpeau ». Et comme le nom l'indique, eh bien, il nous entraîne dans le monde de la santé, le monde médical, avec la sécurité sociale, la recherche contre le cancer, l'euthanasie, etc., etc. Un monde qui nous concerne tous, finalement, assez complexe et qui nous concerne tous à un moment donné.
Oui, à un moment donné
de notre vie.
De notre vie. Et donc, mon personnage que je suis depuis une vingtaine d'années, même si je n'ai pas fait beaucoup de livres avec, mais donc c'est le quatrième roman, comme
oui,
vous venez de dire.
Oui, oui.
Et donc aujourd'hui, il se retrouve donc face à la maladie, face au cancer et au problème de la fin de vie. Et donc, c'est une façon pour moi de parler de ces grands thèmes sociaux.
Oui, d'un sujet assez grave. Et qui est traité, qui pourrait même aussi être triste, et qui est traité avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, on va le voir. Et donc, ce livre, je rassure nos auditeurs, n'est pas triste du tout.
Non, disons que les sujets sont graves, les sujets sont les sujets de tout le monde, je crois.
Oui.
Mais bon, Parpeau reste Parpeau, c'est-à-dire c'est ce personnage naïf, qui est plein de bon sens, un peu tendre, qui a du mal à être dans notre société. Et c'est à travers son regard et à travers ses réflexions que c'est une façon un petit peu distanciée de parler de ces gros problèmes.
Voilà, il sert à mettre un peu une certaine distance avec un sujet assez lourd, finalement.
Voilà, c'est-à-dire que la lourdeur du sujet, bien sûr, persiste, mais lui, le regard qu'il pose là-dessus, ou la distance qu'il met, la façon dont il va s'adresser aux gens tout autour de lui, avec cette bienveillance, cette naïveté, c'est pas du
cette
tout...
Cette pureté aussi.
Cette pureté fait que, du coup, tout le monde suit un petit peu sa façon de voir et décale le regard.
Tout
voilà, c'est
fait.
Vraiment le fond
changer,
du projet.
Il arrive un peu à faire changer les acquis,
voilà,
on va dire, un peu.
Il va trouver des bonnes choses dans le cancer, dans le fait de mourir. Et bon, c'est des choses de bon sens finalement, et je crois que, puisque maintenant le livre est sorti depuis 2-3 mois, les retours de lecture font qu'il y a une certaine adhésion par rapport à ce qu'il peut,
à ce
qu'il peut dire.
Ça ne m'étonne pas du tout. Une certaine sagesse aussi finalement, on en parlait tout à l'heure hors antenne, une certaine peut-être sagesse qui ressort de
tout ça. Oui,
c'est
une façon de poser un regard sur la vie et qui est propre à ce personnage.
Moi j'aime beaucoup Barthélémy Parpeau et j'aime sa façon justement de voir la vie, de voir les choses et de tirer toujours le positif, même de quelque chose de négatif.
Voilà,
ce sont
ces 4 livres, et en particulier celui-là.
Celui-ci, voilà, sur un sujet, donc, comme on l'a dit, sur la santé. Alors, comme à son habitude, eh bien, Barthélémy Parpeau écrit des lettres. Il écrit des lettres, c'est un roman épistolaire, ne l'oublions pas. Il écrit des lettres à tout le monde, et en posant en toute simplicité, eh bien, des questions, parfois étonnantes, dérangeantes, mais toujours pleines de bon sens. Il écrit aussi bien à l'assistante sociale de la caisse primaire d'assurance maladie, qu'une chercheuse en oncologie, ou alors même en passant également par l'aumônière de l'hôpital. Et dans ce nouveau roman épistolaire, donc, on retrouve la tendresse, la drôlerie et la naïveté de Barthélémy, et qui se pose beaucoup de questions, comme à son habitude. Et certaines questions, on pourrait dire que tout le monde, en gros, se pose, mais que personne n'ose poser. Il ose un peu il ose poser des questions auxquelles tout le monde a plus ou moins pensé, mais que personne n'a osé poser.
Oui, et puis comme il ne le fait pas crûment, c'est-à-dire il ne le fait pas de façon agressive.
Non, tout à fait.
Barthélémy Parpeau, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les codes de notre société, ou voire qui ne s'est pas trop inséré dans la société. Il est seul, il vit dans un petit appartement,
oui,
il n'a pas de revenus.
Oui, tout à fait.
Mais il continue, avec beaucoup de bonne volonté, à vouloir faire partie de la société et à vouloir vivre avec tout le monde. Et c'est, je crois, un de ses côtés les plus attachants.
Oui,
c'est-à-dire qu'à un moment donné,
oui,
par exemple, il discute avec quelqu'un et puis lui dit « mais j'arrive pas à trouver du travail ». Et puis l'autre personne lui dit « mais moi j'étais à Pôle emploi et puis finalement on m'a proposé ce poste-là, aux pompes funèbres d'ailleurs, bon, c'est un moment assez drôle ». Et Barthélémy Parpeau lui dit « ah bon, ils vous ont proposé quelque chose ?» Et l'autre lui dit, ben oui, mais en fait, j'étais pistonné. Et là où on s'attendrait à ce que quelqu'un dise, ah oui, c'est toujours pareil, etc.
Bon,
lui dit, ah ben alors, c'est bien normal, si vous étiez pistonné, d'avoir eu un poste.
Voilà.
Et il n'est pas agressif.
Oui.
Voilà.
Non,
et ça fonde un peu le personnage aussi.
Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, donc, il se pose beaucoup de questions également, mais sur son cancer, parce qu'il a un cancer, et sur ses mégastases, comme il appelle, selon son terme.
Parpeau écrit beaucoup.
Oui.
Et donc, ce qui caractérise le personnage, c'est un peu la lourdeur de ses expressions. Il n'a pas toujours une syntaxe grammaticale très juste, donc il se trompe sur les pronoms personnels, il casse certains mots. Voilà, donc métastase devient mégastase, ou Google devient Google, des expressions qui sont un peu à lui.
Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Barthélémy Parpeau, et alors il faudrait qu'ils ne soient pas nombreux, parce que il faut vite réparer ça sinon. Alors, il vit rue Bayard à Toulouse, donc en plus, on est dans un roman épistolaire avec un homme toulousain, qui vit à Toulouse, donc rue Bayard, dans un petit appartement. Il est érémiste, donc il n'a pas de travail, il vit seul, il n'a ni femme ni enfant, il n'a pas non plus de parents proches, il n'a plus de parents proches et il a très peu d'amis, hormis, on peut dire, les clients du Café des Sports à côté de chez lui. Et puis, donc, avec curiosité et naïveté, il pose des questions, comme je disais tout à l'heure, que tout le monde se pose sans oser les poser. Alors, il est plutôt rêveur, attachant. Et puis, il a l'âme pure, moi, je trouve, Barthélémy Parpeau. Et il arrive à faire aux autres, à certaines personnes, des choses incroyables. C'est aussi ça, son talent à Barthélémy, sans le savoir, d'ailleurs. Hein, il n'en a pas conscience. Et puis, son attitude bouscule les codes établis de notre société, avec ses codes un petit peu rigides, établis. Lui, il les bouscule et finalement, il arrive, comme je disais, à faire bousculer un peu tout le monde aussi. À la fin, ceux qui étaient ancrés dans des codes bien établis, ben, finalement, se laissent aller à une certaine...
Oui, disons qu'il
arrive à fédérer...
Il écrit, il renvoie des lettres, où il a des demandes, mais il demande sans insister. au bout d'un moment, ben, finalement, beaucoup de gens finissent par dire « Bon, allez, je vais aller quand même faire ça. »
Oui, parce qu'il a une écriture attachante. Hein. Enfin, je veux dire, il écrit très simplement et c'est touchant.
Il est toujours très poli. C'est-à-dire, il
dit,
mais, j'aimerais bien, par exemple, que vous veniez me voir, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Ou, voilà, il est toujours dans... Il propose un truc, mais en même temps, il propose les solutions presque pour que ça ne se fasse pas. Alors, mais quand même, il va renvoyer deux lettres, trois lettres, toujours avec ça. Et finalement bon, les gens se disent « Bon, allez. »
Arrive à faire ce qu'il a demandé au début.
C'est du doux harcèlement, on peut dire.
Il est trop fort, ce Barthélemy Parpaud. Alors, ce livre est dédié aux 29 856 nominés de l'année. Voilà, c'est un hommage.
Il y a ce regard sur la maladie et plus particulièrement sur le cancer.
Oui.
Il y a un regard bienveillant sur notre humanité, mais en même temps, je veux dire, la gravité et puis le côté ça tombe n'importe où, n'importe quand, de plus en plus, etc., reste, c'est le fond aussi du livre. Et il y a donc la chercheuse, il y a une façon aussi assez sérieuse de parler du cancer.
Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, dans ses lettres, il dit toujours « Voilà, j'ai un cancer de l'estomac, mais je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. C'est pas de ma faute si j'ai le cancer. » Enfin, il annonce toujours la couleur, si on peut dire, dans ses lettres, en précisant bien « Bah oui, forcément, le cancer, ça tombe sur n'importe qui. » Et donc, il a un cancer de l'estomac, Barthélemy Parpaud. Donc, il fait des séances de chimiothérapie à l'hôpital de Toulouse. Et puis, donc, il écrit des lettres. Alors, par exemple, il écrit à Anaka. C'est une scientifique chercheuse donc, dans un laboratoire d'oncologie à qui il propose eh bien, d'être son cobaye vivant pour trouver, je cite, « le médicament qui sauve et empêche le cimetière, un médicament pour savoir comment est la tendresse de tous les jours avec une femme ». Voilà, ça voilà, c'est donc, Barthélemy.
Barthélemy Parpaud, depuis 20 ans qu'il
est
dans mes romans.
Bon,
sa quête absolue, c'est la quête l'amour. D'une femme avec qui il pourrait vivre.
Oui.
Donc, chaque fois, il approche, il se recule, etc. Et donc, là, il reprend un peu ce leitmotiv qui a suivi pendant les quatre romans où il dit, bien sûr, je voudrais guérir et puis voilà, je voudrais quand même une fois dans ma vie connaître ce que c'est vivre avec une femme,
bonheur,
la tendresse, connaître ce bonheur.
Tout à fait. Alors dans ce livre, on trouve aussi bien des résultats d'analyse, des comptes rendus médicaux qui sont totalement incompréhensibles pour le commun des mortels. Et là, qui montre une réalité, aussi, hein, une vraie réalité,
oui,
si je puis dire.
Oui, parce que, donc, par-delà le fait qu'il écrive ou qu'on lui réponde, bon, c'est un roman épistolaire, comme on dit, mais enrichi, si je peux me permettre, par, effectivement, tout ce qui est traces écrites. De la même façon que dans les autres livres, il y avait eu des factures. Bon, mais là, il y a des comptes rendus médicaux, des comptes rendus d'analyse. Il y a des tickets de taxi.
Que tout patient reçoit.
Voilà, il y a des tickets de taxi, des billets d'avion. Voilà. Alors, disons que le phénomène, le livre épistolaire ne vous permet pas de dire certaines choses. Mais par contre, si vous voyez un billet d'avion avec telle destination, vous comprenez que
il est allé
là. Voilà,
c'est tout là.
C'est un peu le jeu de ces parcours.
Du roman épistolaire, avec toutes ces traces écrites que tu as inséré au fil du...
Et où le lecteur donc, fait un petit peu une partie de l'histoire, puisque découvrant une trace, par exemple sur une facture, c'est « Ah, mais si cette facture, c'est qu'il s'est passé ça
voilà. ».
C'est un petit peu une connivence avec le lecteur.
Tout à fait. Et puis alors, on constate sur ces comptes rendus ou résultats d'analyse que le nom du patient est remplacé par un numéro à X chiffres. Ça, c'est bien une réalité également. Et puis, Barthélemy Parpaud écrit aussi alors à Madame Annette, qui est l'assistante sociale de la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, et qu'il remercie chaleureusement pour, je cite, « les remèdes très chers qui sont gratuits, car on vit dans un beau pays où on vous soigne quand vous êtes malade ».
C'était un petit clin d'œil, donc effectivement, sur la sécurité sociale. Au début même, je voulais appeler ce livre « Vive la sécurité sociale ».
Et puis finalement,
on voulait quand même garder Parpaud dans le titre. Donc, les titres, vous savez, il y en a 4 ou 5 entre le premier titre et puis celui qui sera le vrai titre in fine.
Alors d'ailleurs, Madame Annette, l'assistante sociale donc de la CPAM, va lui répondre et même va lui soumettre une idée assez singulière que je laisse au lecteur le soin de découvrir. Une idée, oui, singulière et pleine de bon sens d'ailleurs, que d'ailleurs Barthélémy va exécuter. Et il écrit aussi, alors Barthélémy écrit aussi eh bien, à l'aumônière de l'hôpital, par exemple, quand il dit « Je n'ai pas envie que le monde continue sans moi ». Et en même temps, je n'ai pas envie de continuer avec lui parce qu'il me fatigue de plus en plus au fil des années qui passent. Donc il y a cette ambivalence.
Voilà, donc il y a après pas mal de lettres où, qu'il écrive à l'aumônière ou à d'autres personnes, mm-hmm. où il a une petite réflexion bien à lui sur la mort.
Oui.
Et où... finalement, il va trouver des bons côtés à la chose en disant, mais finalement, c'est le seul moment où on va être vraiment tous à égalité, puisque c'est un homme qui a souffert un petit peu d'être différent des autres. Et puis, voilà, il dit, mais la mort, au moins, je serai comme tout le monde. Voilà. Et il y a pas mal de réflexions qui vont un petit peu dans ce sens.
Tout à fait.
Et qui lui donne une sorte d'apaisement par rapport à sa fin.
Oui, 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 tout à fait, c'est tout à fait ça. Et puis quand Barthélémy aussi parle des forums, ça aussi c'est un clin d'œil amusant, des forums de discussion, il dit « c'est un endroit de Google où un tas de gens qui n'en savent pas plus que les autres parlent ensemble ». Et puis pour lui, Google, c'est « Google répète tout de travers et à tout le monde ».
Oui, oui, c'est-à-dire que à un moment donné, il fait une confidence à quelqu'un, il dit mais surtout il faut pas le dire à Google, parce qu'après il va le répéter dans tous les sens et puis ça part des intonations sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Il y a 20 ans donc Parpo n'avait pas internet ni de mail et puis aujourd'hui effectivement vous pouvez plus faire un roman épistolier sans avoir de l'internet un petit peu au milieu.
Tout à fait. Alors Barthélémy doit subir une nouvelle opération à un moment donné et il a peur de cette opération et donc de la mort et il écrit d'ailleurs à Madame Annette de la CPAM en disant « C'est bête, vu que je n'ai rien à regretter, ni épouse pour la vie, ni enfant éploré, ni ami proche, ni ami éloigné, ni argent, ni maison, et pourtant j'ai peur, c'est peut-être de ne pas savoir ce qu'il y a après ». C'est l'éternelle question sans réponse,
ça fait partie de ces petites réflexions, de ces interrogations, de ces constructions mentales, on va dire, par rapport à la mort.
Oui, tout à fait, mais pour notre plus grand plaisir, parce que c'est vrai que toutes ces petites réflexions, tout ça, toutes ces petites pensées, eh bien, elles nous parlent, hein, forcément,
oui,
tout à fait, elles sont proches de nous.
Voilà.
Et puis, dans ce roman, on voyage aussi. On va voyager, alors je n'en dirai pas plus, mais on voyage à Boston et à Venise. Et Barthélémy, d'ailleurs, a une pensée que j'aime beaucoup. Il dit qu'on n'est pas obligé d'être ailleurs pour être heureux. Et aussi, c'est mieux d'être à Pibrac avec une amoureuse qu'à Tokyo sans personne.
Voilà, donc ça, c'est toujours son leitmotiv de la quête amoureuse qui ne le quitte pas.
Quelle idée, voilà, d'aller à Tokyo tout seul si on peut être à Pibrac à
avec
deux.
Une jolie amoureuse.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a un clin d'œil aussi à Marilyn Monroe. Donc, ça, je le cite parce que, voilà, j'aime beaucoup Marilyn Monroe. Les auditeurs le savent bien. Et René et Rémi, donc, sont des entre guillemets, des amis de salle d'attente de chimiothérapie.
Des malades comme lui.
Donc, tout à fait. Ces deux acolytes, donc René et Rémi, pensent que les médecins... ne disent pas la vérité, par exemple, sur la mort de Marilyn Monroe. Et pour Barthélémy, d'ailleurs, les médecins n'en savent pas plus que les autres, mais ils savent juste mieux faire semblant. Ça, c'est excellent.
Oui, non, c'est un peu méchant. Disons que donc c'est peut-être sorti un petit peu hors contexte, mais effectivement, il y a...
Les experts qui nous
envahissent un peu et vous reprenez le même expert, vous le confrontez à la réalité 15 jours après.
Il va dire tout le contraire
ou tout ce qu'il a dit était des âneries. Donc c'est pour ça
il
y a ce petit coup de pied par rapport à ça.
Oui.
Après, par contre, le livre, il est plutôt très... Il vient plutôt en hommage à tout ce monde médical, que ce soit les infirmières, les soignants, les docteurs, etc. Où, même s'il y a une critique par moment, ça dit aussi que ces gens qui sont là, ils n'y sont pas par hasard. Et donc, il y a une
forme de vocation, quoi.
De vocation. D'engagement. D'engagement, sans doute. Mais c'est un métier difficile et ils sont tous les jours. Enfin, voilà. Donc, il y a cette dimension qu'il faut pas minimiser sous prétexte qu'il y a ci ou ça. Voilà.
Tout à fait. Mais il y a aussi, tout à fait.
Le livre, il est plutôt sur ce registre-là, quoi, par rapport à l'univers de la recherche, à l'univers de...
Oui. Heureusement qu'il y a des chercheurs contre le cancer. D'ailleurs, Annaka, à qui il écrit souvent, le lui explique, d'ailleurs.
Annaka est la figure... Tutélaire de la recherche. Et là aussi, je crois que c'est... Ce livre, je connais un petit peu le monde de la recherche, c'est un milieu que j'aime bien.
Moi, alors,
je sais bien, je suis pas naïf, je sais bien qu'il y a
des
rivalités, qu'il y a beaucoup de choses, mais je suis quand même de gens qui sont vraiment profondément engagés dans ce qu'ils font, et il y a une vraie générosité par rapport à ça.
Tout à fait, donc ça rend aussi, c'est aussi une sorte de...
Dommage aussi à tous. Très discret, mais voilà.
Alors Barthélémy, comme tu le disais tout à l'heure, se sent moins seul depuis qu'il a le cancer, avec les patients de la salle d'attente de la chimiothérapie, les jolies infirmières, justement, les aides-soignantes, les docteurs, son chirurgien notamment, et puis la dame de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Et puis, il y a comme un sentiment d'égalité avec, je cite, « Pour une fois, j'ai l'impression d'avoir la même chose que tout le monde et d'être traité comme tout le monde. Et aussi, dans la salle d'attente, il n'y a plus de différence entre le CDI et le CDD. » Tout est gommé, comme si la santé, enfin la maladie, fédérait
Une sorte de... Et donc lui qui a toujours été à l'écart de tout, qui vit seul, comme vous le précisiez tout à l'heure, par rapport à la société, d'un coup se retrouve traité comme tout le monde. Ça fait partie des renversements
positifs que Parpo voit dans ce phénomène de la maladie.
Quoi.
Tout à fait. Alors, il fait dans le groupe de parole donc de l'hôpital, justement, Barthélémy, dont il fait partie. Barthélémy fait des rencontres. Alors, on peut citer celle de la vieille comtesse, Eugénie de Saint-Mont, dont on va découvrir toute une partie de sa vie dans une longue et belle lettre. J'aime beaucoup le style de la vieille comtesse qu'elle écrit à Barthélémy et qui raconte son époque qui... « une époque qui avait encore quelques charmes et qui n'était pas hostile aux traditions. » Et oui, c'est une
vieille
comtesse
dame qui a 90
qui a
ans
connu, voilà,
et qui a effectivement un style, une façon d'écrire donc très presque 19e. Là aussi
notre plus grand plaisir, voilà. Moi, j'ai apprécié.
Donc ça fait partie justement de la richesse d'un roman épistolier où on peut passer d'un style à un autre.
Tout à fait.
Voilà, donc avec Parpo un peu lourd, des lettres un peu administratives par la sécurité sociale. À côté de ça, cette comtesse qui s'exprime un peu comme au 19e siècle. Voilà, et ça, je pense, c'est important pour le rythme du livre.
Oui, tout à fait. Et puis j'aime aussi quand elle dit « La vie m'a appris la bienveillance et le désintéressement. Ce sont des qualités si rares. » C'est vrai, et Barthélémy les a justement.
Voilà,
ces
et donc
deux
c'est
qualités.
Pour ça qu'il y a une relation, un attachement qui se crée entre Barthélémy et la comtesse.
Et cette vieille comtesse. Et puis je terminerai avec cette phrase qui m'a beaucoup plu de Barthélémy : être en vie, c'est avoir envie. Et oui, c'est totalement vrai, c'est simple, c'est quelques mots, et ça dit toute l'étendue de ce qu'on peut faire, de ce dont on a envie, parce qu'on est en vie.
C'est les aphorismes de Parpo.
Tout à fait. Alors justement, on lui souhaite d'ailleurs d'avoir plein d'autres belles envies à Barthélémy Parpo, puisque voilà. Et puis à toi aussi, Alain. Et alors justement, qu'as-tu envie d'écrire prochainement, ou qu'as-tu déjà plus ou moins écrit
Non, là, disons,
qui est en attente, peut-être.
Je suis sur deux vagues projets qui ont commencé. Donc, il n'est pas rare que j'écrive 2-3 livres en même temps. Et puis, il y en a un qui démarre et les autres restent sur le bord de la route. Voilà, là, donc j'ai deux idées un peu en cours avec quelques quelques dizaines de pages écrites, et puis je sais pas, il faut que, qu'il y en ait un qui l'emporte sur l'autre.
Bon, puis il faut vivre aussi.
Oui, hein.
Voilà, il faut prendre le temps. Et puis peut-être que dans quelques temps, il y aura une nouvelle aventure de Barthélémy Parpo sur un registre encore différent.
Oui, plus tard. Enfin, vous savez, là, j'ai écrit ce Parpo, là, donc c'était au printemps dernier.
Oui,
l'avant-dernier était en
2006.
2006, donc ça fait 8 ans. L'autre était en 2002.
Voilà,
donc
chaque fois.
En fait, donc, c'est une fausse série, quoi, parce que il faut que j'ai une envie de parler d'un thème et de reprendre ce personnage un peu naïf, comme on disait, plein de bon sens, pour parler de ce thème. Voilà, donc là, j'avais envie de parler du cancer, j'avais envie de parler de la mort. Donc, j'avais pas envie de le faire sous une forme théorique. D'abord, je crois que je n'aurais pas su le faire. Et puis surtout, voilà, ce regard décalé.
Et à distance, mettre une certaine distance aussi avec.
Et si d'ici 2 ou 3 ans, j'ai un autre thème qui m'appelle et que je ferai peut-être appel à Barthélémy pour m'aider.
Voilà, pour notre plus grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Alain pour ta venue à page sur Radio Occitanie, pour ce roman qui ne laisse pas indifférent et on retrouve avec grand plaisir notre cher Barthélémy Parpo, un homme finalement très proche de nous. Et puis on se retrouve vendredi 9 octobre à 15h sur Radio Occitanie. Je recevrai Rachel Corenblit qui ne nous apporte pas un roman jeunesse comme d'habitude, mais son premier roman de littérature générale, intitulé 40 tentatives pour trouver l'homme de sa vie aux éditions du Rouergue. Alors c'est tout un programme et traité avec beaucoup d'humour, on s'en doute. Et puis alors on va se quitter, Alain, avec un morceau musical, un petit clin d'œil à un passage du livre quand une infirmière parle d'un médecin. Voilà, tu penses savoir ce que
alors,
c'est.
Je ne sais pas ce que va être le morceau musical, mais effectivement, c'est une infirmière qui parle de, qui a surnommé
un médecin
Shabadabada, parce que parce qu'il joue de la musique et que c'est bien. Voilà.
Et Shabadabada, eh bien, c'est un homme, une femme de François Truffaut. Et alors, on se quitte dessus. Merci Alain et Adiciat. Yeah.